Ernest Boissière, Un amour de province. Chapitre 1, Le batelier de la cale Saint-Éloi. Tous les habitants de Rouen, que leurs affaires appellent à traverser fréquemment la Seine à la cale Saint-Éloi, ont certainement gardé le souvenir du père Mathurin. C'était une physionomie originale et qu'il était difficile d'oublier quand on l'avait étudié une fois avec un peu d'attention. Pour nous, bien qu'il soit mort depuis plusieurs années, nous avons son image devant les yeux aussi nette et aussi précise que si elle datait seulement de la veille. À l'époque où nous l'avons connu, c'est-à-dire dans les dernières années de sa vie, c'était un grand vieillard, sec, osseux et légèrement voûté. Comme il vivait en plein air depuis plus de 40 ans, exposé à toutes les variations de la température, son visage était devenu d'une couleur brun foncé, et 1000 petites rides en sillonnaient toute la surface. C'était peut-être la raison pour laquelle il ne faisait la barbe que le dimanche. Néanmoins, ce qu'il pouvait y avoir de rude dans sa physionomie était tempéré par la douceur de son regard et par le sourire bienveillant de sa bouche. Il attirait la sympathie à première vue. Du reste, il était encore robuste et les manches de sa chemise retroussées laissaient voir, quand il maniait son aviron, une musculature saillante et énergique. Il causait volontiers avec ses passagers, parlait de la force du flot, de la hauteur de la marée, et savait tirer de l'état du ciel des pronostics certains pour le temps du lendemain. Là se bornaient à peu près toutes ses connaissances. Ajoutons-y toutefois un peu de lecture et médiocrement d'écriture. Sorti de son élément, il était d'une complète ignorance des hommes et des choses. Il avait vu passer bien des gouvernements, ne sachant trop au juste quel était celui qui s'en allait et celui qui le remplaçait. Tout se bornait pour lui à changer les jours où, pour les fêtes officielles, il arborait sur son bateau le petit drapeau tricolore. Il n'avait d'ailleurs jamais manqué de l'arborer tous les dimanches. La fête du Seigneur ne change pas de jour. Et Mathurin était religieux, si nous en jugeons, par un modeste cadre placé dans son bateau et sous lequel on voyait une mauvaise lithographie de la Sainte Vierge. Sans doute sa religion n'était pas bien transcendante. Il en était resté, en matière de dogme, aux enseignements lointains et à moitié oubliés du catéchisme. Mais sa foi, simple et naïve, était probablement là-haut prisée davantage que la science de certains docteurs. Nous n'avons rien de particulier à noter dans sa mise, si ce n'est une montre d'argent attachée à son cou par un cordon et dont on devinait les vastes proportions à la place qu'elle occupait dans la poche de son gilet. Il la tenait de son père qui lui-même l'avait tenue du sien. L'origine de ce meuble de famille se perdait dans la nuit des temps. Le père Mathurin avait deux grands amours sur terre, sa fille et son bateau. Tous les deux s'appelaient Louise. Nous ne savons pas si le bateau avait donné son nom à l'enfant ou l'enfant le sien au bateau. Parlons d'abord du bateau. La description n'en sera pas longue. Il était plat et surmonté d'une espèce de cage en planche ouverte aux deux extrémités. C'est le même principe que celui de la gondole vénitienne. Il n'y manque que l'élégance et les vers du Tasse. Si au moins, pour les remplacer, les Rouennais avaient ceux de Corneille. Le bateau du père Mathurin ne se distinguait des autres que par une propreté plus scrupuleuse. On voyait souvent le vieillard profiter de ses loisirs pour lui faire amoureusement la toilette. Les couleurs de la cage en planche étaient soigneusement entretenues et fréquemment renouvelées. Il n'y avait jamais d'assez beau noir, de vermillon assez éclatant pour l'embellir et la parer. Il était très sensible aux compliments qu'on lui en faisait. Et c'était un sûr moyen de gagner ses bonnes grâces que d'amener la conversation sur ce sujet. Passons au second objet des affections du père Mathurin. Louise avait 18 ans au moment où commence l'histoire que nous allons raconter. C'est-à-dire, oh, mais à quoi bon mettre une date? Le cœur n'exige pas de ses historiens une précision si rigoureusement mathématique. Il est de tous les temps et de tous les lieux. Ses joies, ses souffrances, ses révolutions n'ont pas d'âge et sont toujours d'actualité. Louise avait donc 18 ans. Sans aller chercher nos termes de comparaison dans les tableaux ou les statues des maîtres, nous dirons qu'elle était jolie. Pourquoi s'épuiser à chercher dans une femme que l'on veut peindre des traits de ressemblance avec les chefs-d'œuvre de l'art? Ce qui nous plaît en elle, n'est-ce pas ce qu'elle a de personnel? N'est-ce pas ce qui en elle ne ressemble précisément à rien de ce que nous trouvons chez les autres? Ce n'est pas la conformation du visage, la courbe du nez, la couleur des yeux qui nous charment. C'est la physionomie, c'est le regard, c'est le sourire. C'est comme une émanation secrète, un parfum qui se dégage de la femme, qui nous gagne et nous pénètre. Les peintres, les sculpteurs n'ont rien à voir à tout cela. Louise était jolie, et elle avait les cheveux châtains, les yeux bleus. Elle n'avait point cette beauté robuste de certaines filles du peuple, pas plus que la morbidezza mélancolique et contemplative des jeunes filles qui ressemblent à des élégies vivantes. Non, elle était alerte et joyeuse. Le rire entr'ouvrait volontiers ses lèvres roses. Elle courait plus souvent qu'elle ne marchait, et la chanson lui plaisait mieux que la pensée. Elle avait 8 ans quand sa mère mourut. Ainsi, il fallait voir de quelle adoration elle était l'objet de la part du père Mathurin, dont elle formait à elle seule toute la famille. Il la regardait avec une sorte de respect et comme un être d'une nature supérieure à la sienne. Il avait éprouvé comme un saisissement d'allégresse le jour où il s'était aperçu que l'enfant qu'il avait porté dans ses bras était devenu une grande jeune fille qui n'avait rien à envier en fraîcheur et en beauté à celle qu'il voyait quelquefois sur le quai dans des équipages plus ou moins armoriés. De ce jour, il s'était senti timide vis-à-vis d'elle, et quand elle se jetait à son cou, c'était avec précaution qu'il la serrait dans ses bras. Parfois, pendant ses voyages d'un bord à l'autre, il la voyait accourir sur la rive gauche de la Seine, lui apportant son repas. Il redoublait alors d'énergie et faisait voler sur le fleuve sa lourde embarcation. Il arrivait en même temps qu'elle et il l'admirait tant, animée qu'elle était par la course. Heureuse, souriante, tant qu'il oubliait de l'embrasser. Elle venait ainsi le voir 2 fois par jour. Elle restait auprès de lui pendant qu'il mangeait sa soupe. Il écoutait son charmant babil, gai comme un chant d'oiseau au printemps, et il reprenait sa tâche, raffermie et reposée, emportant dans son cœur comme une éblouissante vision. Tous les dimanches, de grand matin, il la conduisait à la messe, à la vieille église Saint-Sévère. Il était fier de lui donner le bras. Parfois, il lui faisait marcher devant lui pour mieux la voir, pimpante et dégagée dans sa robe d'indienne, avec son petit bonnet blanc dont les brides flottaient au vent. Elle avait cette coquetterie innée des jeunes filles, jolies, qui donnent à la toilette la plus simple et la plus modeste un cachet inimitable d'élégance et de distinction. Le père et la fille demeuraient dans une de ces petites rues qui donnent sur le quai Saint-Sévère et que, pour la commodité de notre récit, nous appellerons la rue des Vignes. Le quartier n'avait pas encore à cette époque l'animation que lui donnent les constructions nouvelles qui s'y sont élevées depuis. La maison était bien petite. L'humble ménage du père Mathurin en occupait tout le premier étage, qui était aussi le dernier, et se composait de deux pièces avec un cabinet servant de cuisine. L'une de ces pièces était l'atelier de Louise, qui s'occupait à des travaux de broderie pour le compte d'une grande maison de la rue Grand-Pont. Ses jolis doigts faisaient des chefs-d'œuvre que se disputaient les riches bourgeoises de la ville. L'appartement et la chambre de Louise en particulier étaient aussi propres que le bateau du père Mathurin. L'ameublement de cette dernière pièce se réduisait aux éléments les plus strictement nécessaires. Un petit lit en noyer, deux chaises, une table, un poêle en faïence, que l'on enlevait pendant l'été, en faisaient tous les frais. Ajoutons, sur la croisée, le jardin traditionnel de plantes grimpantes et une cage contenant un chardonneret apprivoisé qui venait prendre les grains de millet entre les lèvres de sa jolie maîtresse. En face de la maison s'étendait un vaste terrain couvert d'arbres et de broussailles qui, depuis longues années, appelait par son écriteau à demi effacé un acquéreur qui ne se présentait jamais. En se mettant à sa fenêtre, Louise voyait à sa gauche la Seine, les quais de la rive droite et les tours, cloches et clochetons des églises de la ville. Ce spectacle, auquel les différents aspects du ciel donnaient à chaque heure du jour un caractère particulier, était sa principale distraction quand ses doigts fatigués laissaient échapper l'aiguille. En face d'elle, au-delà du jardin et sur la droite, la vue était moins gaie. C'étaient des toits d'usine et leurs cheminées qui envoyaient vers le ciel des flots d'épaisses fumées. La ville de Rouen a en effet ce double caractère. Elle forme deux cités distinctes, celle de la rive droite, la cité ancienne, artistique, avec ses immenses poèmes en pierre sculptée, et celle de la rive gauche, la cité du travail, qui par un brume temps d'hiver rappelle vaguement les villes manufacturières de l'autre côté de la Manche. Le poète et l'artiste s'empareront de la première. L'homme pratique se plaira dans la seconde. L'observateur et le philosophe trouveront dans toutes les deux une source de comparaisons et d'enseignements. Louise menait une vie tranquille et laborieuse dans le milieu que nous venons de décrire. Levée de bon matin, elle travaillait jusqu'au soir, ne s'interrompant que pour porter à son père à midi et à 6 heures la nourriture qu'elle lui préparait elle-même. Une ou deux fois par semaine, elle allait à son magasin porter son ouvrage et en prendre d'autres. C'était pour elle le jour de fête. Elle traversait la Seine dans le bateau paternel, toute joyeuse, quand le vent agitait la surface de l'eau et faisait balloter l'embarcation. Quelquefois, s'asseyant auprès de son père, elle prenait dans ses petites mains le lourd aviron, et le visage animé, la poitrine haletante, elle le laissait retomber après quelques efforts. Parfois, elle se mettait à l'arrière et suivait attentive le sillage tracé par le bout de son ombrelle qu'elle trempait dans l'eau. L'heureux père la contemplait en souriant, la déposait sur l'autre bord, et après l'avoir embrassée au front, la suivait du regard cheminant le long du quai. Elle l'entendait de très loin crier aux passants « Passez-vous l'eau !» Elle marchait vite, les yeux baissés, non toutefois sans entendre sur son chemin les exclamations flatteuses que sa gentillesse arrachait à ceux qui la rencontraient. Les vieillards souriaient, les jeunes gens s'arrêtaient, se retournaient. Plus d'une femme élégante lui lançait un coup d'œil qui n'était pas exempt d'envie. Elle voyait tout cela avec ses yeux modestement baissés. On sait que c'est un privilège féminin que de voir sans regarder. Un jeune homme plus hardi lui glissait quelquefois un compliment à l'oreille. Elle rougissait alors et hâtait le pas. Mais il y avait en elle une candeur qui imposait le respect et qui l'avait toujours préservé des obsessions dangereuses et persistantes. Il y a à Rouen peu ou point d'oisifs. Pendant le jour, on travaille. Les passants vont à leurs affaires. Chacun a son but et le poursuit, sans accorder à ce qu'il vouloir autre chose qu'un regard distrait et préoccupé. Louise arrivait sans encombre à son magasin, touchait le prix de l'ouvrage qu'elle rapportait, et une heure après son départ, elle était de retour dans sa chambrette avec une nouvelle provision de travail. Elle y rapportait aussi des sujets nouveaux de réflexion qui occupaient sa solitude. Elle était femme, après tout. Elle songeait aux étalages des magasins de nouveautés qu'elle avait entrevus sur son chemin. Et elle poussait un soupir en regardant sa robe d'indienne. Elle songeait à quelque beau jeune homme qu'elle avait rencontré, secouant de sa main gantée la cendre d'un cigare dont la fumée montait dans l'air en spirale bleuâtre. Et elle soupirait quand sa pensée se reportait sur Hector Bourdois, dont elle entendait au-dessous d'elle le rabot diligent courir sur les planches. Présentons ce nouveau personnage à nos lecteurs. Le rez-de-chaussée de la maison dont Louise habitait le premier étage était occupé par le père Bourdois et son fils Hector Bourdois, tous deux menuisiers de leur état. Bon, il n'était ni riche ni très achalandé, et suffisait tous les deux à la besogne ordinaire. Très rarement, dans les moments de presse, il s'adjoignait un troisième ouvrier. Hector Bourdois, qui avait 25 ans, était une nature honnête et droite. Mais un esprit borné et dont les aspirations ne s'étaient jamais élancées au-delà de la boutique où il était né, où il avait grandi. Il connaissait et il aimait Louise depuis longtemps. Et bien qu'aucune parole d'amour n'eût été échangée de part ni d'autre, Louise savait qu'elle était aimée. Bien plus, il semblait décidé, par un consentement tacite, que les deux jeunes gens se marieraient un jour. Seulement, ce jour n'était pas fixé, personne ne s'en occupait. Hector était trop timide pour oser faire une motion semblable. Louise n'y pensait guère. Quant aux parents, ils s'en rapportaient à leurs enfants. Le père Mathurin, surtout, n'eût jamais osé prendre l'initiative d'une semblable proposition. En attendant, Hector s'évertuait à se rendre utile. Il faisait les petites commissions du ménage, allait chercher l'eau et la braise. Il avait le droit en récompense d'embrasser Louise le jour de sa fête et au jour de l'an. Il n'en demandait pas davantage, et elle ne songeait pas rien lui accorder de plus. Cette situation pouvait se prolonger indéfiniment grâce à la timidité de l'un et l'indifférence de l'autre. Un petit incident vint cependant un jour la modifier. Chapitre 2. Le pavillon de la rue des Vignes. Nous avons dit qu'en face de la demeure du père Mathurin se trouvait un terrain, moitié jardin, moitié taillis, dans un état de complet abandon et qui était alloué depuis longtemps. Un beau matin, l'écriteau disparut. Grande rumeur dans la maison d'en face. « Oh, si on pouvait nous bâtir là une belle maison qui me procurerait de l'ouvrage !» pensa le père Bourdois. Oh, « Pourvu qu'on ne m'abatte pas mes beaux arbres !» pensa Louise. Pendant la journée, Louise vit de sa fenêtre un jeune homme de mise élégante et d'allure distinguée s'aventurer dans la rue suivi d'un homme qui avait tout l'air d'un jardinier. Il ouvrit la porte du jardin, qui était clos de murs, s'y promena pendant une heure avec l'homme qui l'accompagnait. Celui-ci prit des mesures et des notes. Ils ressortirent tous deux et reparurent se consulter pendant quelques instants. Puis ils se dirigèrent vers la boutique du menuisier. Le jeune homme y entra le premier et s'arrêta un moment sur le seuil en apercevant Louise qui causait avec le père Bourdois. Il était aussi charmé qu'étonné d'une semblable rencontre en pareil endroit. Il fit un pas en avant et se découvrit. Cependant, Louise, rougissante et tout émue de l'attention dont elle venait d'être l'objet, avait disparu et était précipitamment remontée chez elle. Le jeune homme, qui avait pénétré d'une façon aussi inattendue dans l'atelier du père Bourdois, se nommait Maxime Perrier. C'était le fils d'un riche manufacturier de Déville. Il avait 25 ans. Sans être ce qu'on appelle un joli garçon, il avait une de ces physionomies ouvertes et intelligentes qui sont comme un passeport grâce auquel on est sûr de trouver partout un accueil sympathique. Il était élégant dans sa toilette, mais il était aussi éloigné de la correction exagérée du gandin que du sans-façon et du débraillé et du bohème. Est-il bien nécessaire de nous étendre sur la couleur de ses cheveux, la nuance de ses yeux, le plus ou moins de petitesse de son pied et de sa main, et sur toutes les autres particularités de sa personne physique? Non, nous ne le croyons pas. Le portrait que nous pourrions tracer à la plume ne vaudra jamais celui que le lecteur se chargera de constituer avec des traits épars empruntés à son imagination ou à ses souvenirs. Son père, manufacturier distingué, avait tenu à faire de lui un homme pratique. Son éducation n'avait rien eu de sentimental et l'on ne pouvait accuser la littérature moderne de l'avoir gâté. Il était resté jusqu'à 18 ans dans une école spéciale. Il avait ensuite voyagé. Il était resté 1 an à Londres, 1 an à New York et à la Nouvelle-Orléans, 2 ans dans différentes villes d'Allemagne. Seulement, le point de vue industriel et commercial était le seul sous lequel il avait envisagé ces différents pays. Son instruction s'était augmentée, mais ses idées ne s'étaient pas élargies. Il était revenu avec des notions exactes sur les ressources financières, le crédit, les procédés divers de fabrication, avec des données superficielles sur les mœurs extérieures des peuples qu'il avait vus. Son observation s'était exercée dans ses limites. Le côté pittoresque et poétique des voyages, celui qui, par la comparaison des hommes et des choses, agrandit l'horizon de la pensée humaine, oh, ce côté-là, disons-nous, lui était resté fermé. Il y aurait certes beaucoup à dire sur ce système d'éducation pratique donné à la jeunesse riche et intelligente de notre époque, mais ce serait l'affaire d'un moraliste et non d'un conteur. Nous nous borderons à dire que Maxime, qui, avec une autre éducation, aurait pu devenir un homme distingué, était seulement un habile industriel et un commerçant prématurément rompu aux affaires. Son père, qui avait en lui la plus grande confiance, et qui d'ailleurs était fort riche, se promettait de lui laisser, dans 1 an ou 2, la direction de son usine. En attendant, et pour la part active qu'il prenait à ses travaux, il lui faisait une pension de 1 000 francs par mois. Mais reprenons notre récit. « Parbleu !» dit Maxime au père Bourdois, après la brusque sortie de Louise. « Vous avez là une bien jolie fille. »« Non, ce n'est pas ma fille, ou du moins, elle ne l'est pas encore. » « Mais comment cela ? Oh, c'est bien simple, Louise. Ah, elle s'appelle Louise. Oui, Louise est la fille du père Mathurin, le passeur. Mais comme elle doit bientôt épouser Hector, vous comprenez ?» Et le père Bourdois, en disant ces mots, montrait du regard son fils qui rabotait dans un coin avec une énergie peu ordinaire. Sans qu'il sût au juste pourquoi, la présence du jeune homme l'avait rendu de fort mauvaise humeur. Quelques mots maintenant du motif qui valait au menuisier la visite de Maxime. Il y avait dans le terrain d'en face un petit pavillon exhaussé d'un étage au-dessus du mur et donnant sur la rue. Il était adossé à la maison qui faisait elle-même le coin de la rue et du quai. Ce pavillon était dans un état de délabrement complet. L'escalier par lequel on y montait était pourri par la pluie. Les boiseries et les persiennes tombaient en ruine. Le rez-de-chaussée pouvait servir de cave ou de cellier. Le premier et seul étage se composait d'une pièce carrée, parquetée, avec deux fenêtres, l'une donnant sur la rue, l'autre sur le jardin. Maxime, qui passait à Rouen tous les moments de loisir que lui laissaient ses occupations, avait chargé un de ses amis de lui trouver un pied-à-terre. Ce fut sur son indication que fut loué le terrain de la rue des Vignes. Seulement, il fallait rendre le pavillon habitable. Et Maxime venait charger le père Bourdois de faire les réparations nécessaires. Il recommandait la plus grande diligence, il avait hâte de s'installer. On était au commencement de juin, l'époque la plus propice aux résidences champêtres. Après une visite faite en commun au pavillon, le père Bourdois demanda 8 jours pour remettre tout en bon état. Quand tout fut bien convenu, Maxime s'éloigna, non sans jeter un coup d'œil à la maison du menuisier. Il aperçut Louise assise et cousant près de la fenêtre. Celle-ci, de son côté, qui n'avait perdu aucun détail des allées et venues dans le jardin et dans le pavillon, ne laissa pas passer inaperçu le regard que lui avait lancé Maxime en se retirant. Inutile de dire qu'elle saisit le premier prétexte pour descendre dans la boutique du menuisier, qui ne se fit nullement prier pour raconter tout ce qui s'était passé, et fit par la même occasion grand éloge du jeune homme qui, disait-il, n'était pas fier, et qui, ajoutons-le, avait paru très coulant sur la question des dépenses. Au bout des 8 jours, le menuisier, qui avait pris un ouvrier de renfort, était en mesure de livrer le pavillon. Hector, cependant, s'était montré peu empressé à la besogne et avait reçu pour sa nonchalance fréquentes algarades. On eût dit que le brave garçon avait le pressentiment qu'il travaillait à la ruine de son bonheur. Le jardinier, de son côté, avait rendu l'enclos praticable. Il avait refait les allées que l'herbe et la mousse avaient envahies. Il avait arraché les broussailles parasites et élagué les branchages trop capricieux. Toutefois, comme c'était un homme de goût dans sa sphère, il avait conservé au jardin un certain aspect sauvage et négligé qui lui donnait un charme particulier. Il avait respecté quelques fourrés et le lierre antique qui, recouvrant le mur, laissait retomber de l'autre côté, dans la rue, son robuste feuillage et ses grappes vertes après lesquels les gamins sautaient en passant. 2 ou 3 fois pendant la semaine, Maxime, qui cependant se souciait peu de jardinage et de menuiserie, était venu inspecter les travaux et avait paru y prendre un vif intérêt. Une fois, il s'était croisé au coin de la rue avec Louise, qui se rendait au bateau de son père, et il s'était cru, par leur précédente rencontre, suffisamment autorisé à la saluer. Il était monté dans le pavillon et, tout en causant avec le père Bourdois, il s'était assuré que, de sa fenêtre, il pouvait voir celle de Louise, qui se trouvait, non pas précisément en face, mais un peu sur la gauche. Quand tout fut terminé, une voiture apporta tous les meubles destinés au pavillon, des tapis, des rideaux, quelques bronzes, quelques tableaux, des livres et tous les accessoires d'une installation élégante et confortable. Ainsi disposé, le pavillon, avec son vaste jardin, était une charmante retraite qu'un poète eût enviée. C'était une solitude à deux pas de la ville dont le bruit n'y arrivait pendant le jour qu'affaibli et mourant. À 10 heures du soir, on pouvait se croire dans un village de sans-feu. Rien n'y révélait le voisinage d'une grande cité, si ce n'est le bec de gaz placé à l'angle de la rue et du quai. Nous ne saurions dire si Maxime, jeune homme pratique comme on sait, point rêveur et n'ayant pour l'idéal qu'une médiocre estime, appréciait à leur juste valeur tous les avantages de la retraite qu'il avait choisie. Peut-être avait-il eu, en cherchant cet isolement, quelque arrière-pensée où la poésie n'avait aucune part. Peut-être n'avait-il voulu qu'un lieu discret pour cacher aux médisances des curieux de province quelques réunions un peu bruyantes de jeunes gens aimant à se distraire, sans toutefois violer les lois du décorum. Cependant, soit que telle n'eût point été son intention, soit qu'une raison quelconque eût modifié ses idées, aucun trouble ne fut apporté dans les habitudes paisibles des habitants de la rue des Vignes. On ne vit aucune robe de soie se glisser discrètement à la brune par la porte du jardin. Et jamais on entendit le bruit des rires ou le cliquetis des verres à une heure où les honnêtes bourgeois ont depuis longtemps clos leurs paupières. Non, Maxime était un modèle de conduite. Il venait presque tous les jours à son pavillon vers 4 heures, soit à pied, soit dans son tilbury, quelquefois avec un ami, le plus souvent seul. Il restait là jusqu'à 7 heures. Il se promenait dans son jardin et surveillait, avec la passion d'un amateur de tulipes, les 3 ou 4 rosiers de son unique plate-bande. Souvent aussi, il approchait d'un fauteuil de la fenêtre de son pavillon, s'y installait et fumait en lisant ou en rêvant. Tout cela n'était pas naturel. Et les amis de Maxime, au courant de son caractère et de ses habitudes, n'eussent pas manqué de s'en étonner. Toutefois, il préférait le cercle à la contemplation de la nature et ne haïssait point les cartes. On le citait même pour le plus fort joueur de whist de la jeune génération. Mais ses amis, à l'exception d'un seul, ne connaissaient point sa nouvelle retraite. Ils attribuaient la rareté de ses visites au cercle à un surcroît d'occupation que lui donnaient ses affaires. Et il continuait à hanter le pavillon de la rue des Vignes avec une grande assiduité. Seulement, il avait fait pratiquer une porte dans le mur du fond du jardin. Cette porte donnait sur une ruelle parallèle à la rue des Vignes et aboutissant également au quai. C'était par cette porte qu'il entrait de préférence chez lui. Il avait sans doute ses raisons pour cela. Dans la maison d'en face, il n'y avait extérieurement rien de changé. Louise continuait à travailler, le père Bourdois grondait, Hector à raboter. Le père Mathurin s'était à peine aperçu de la présence de son nouveau voisin. Louise avait été très peu communicative avec lui sur ce sujet. Cependant, en allant au fond des choses, on aurait pu distinguer, chez certains habitants de la maison, des symptômes précurseurs d'un orage prochain. Hector, ordinairement peu bavard, était devenu plus taciturne que jamais. On le voyait souvent, accoudé sur son établi, les yeux flottant dans l'espace et paraissant plongé dans une profonde méditation. Quand son père l'interpellait brusquement, il bondissait comme un homme qui se réveille en sursaut et se remettait à l'ouvrage en poussant un gros soupir. Il roulait évidemment dans sa tête carrée quelques grands projets. Un après-midi, comme le père Bourdois était sorti, il prit une résolution extrême et monta 4 à 4 les marches qui conduisaient à la chambre de Louise. Sans prendre le temps de respirer, il frappa. On dit « Entrez !» et il entra. Louise était, selon sa coutume, assise près de la croisée. Il était 4 heures. Le soleil couchant entrait en plein dans la chambre et se jouait dans les cheveux de la jeune fille, qui leva la tête et sourit en voyant entrer Hector. « Que me voulez-vous, mon ami ?» lui demanda-t-elle. Mais celui-ci était resté comme interdit sur le seuil de la porte qu'il avait oublié de fermer. La beauté de Louise, ainsi entourée de lumière, avait un éclat tel que le pauvre garçon en fut ébloui. Il garda donc le silence, intimidé et tortillant sa casquette avec ses doigts. Louise fut obligée de réitérer sa demande. Il balbutia quelques mots et finit par dire « Je viens voir si vous n'avez pas besoin de rien. C'est pour cela que vous êtes montée ?»« Eh bien non, Louise, reprit Hector, faisant appel à tout son courage. Il y a longtemps que je veux causer avec vous. » Mais causons, mon ami, je vous écoute. Vous savez, Louise, qu'il y a longtemps que je vous aime. Sans doute, mais moi aussi, Hector, j'ai pour vous une bien franche amitié. Ben, je viens vous demander si vous voulez toujours être ma femme. Oh, pour cela, nous avons le temps d'y penser. Nous sommes bien jeunes, tous les deux. Nous ne sommes pas riches. Rien ne nous presse donc de nous mettre en ménage. Ben, cela vous plaît à dire, Louise, mais moi... Eh bien quoi? Ne sommes-nous pas heureux comme nous sommes, là? Ne nous voyons pas tous les jours? Que faut-il de plus? Ben, je ne sais pas, mais je ne suis pas tranquille. Et je voudrais nous voir mariés. On dit comme ça que les jeunes filles sont exposées à des tentations dangereuses. Mais ceux qui disent cela ont tort, mon ami. Les jeunes filles ne sont exposées à quelques dangers que quand elles le veulent bien. Allez, croyez-moi, retournez à l'atelier, car j'aperçois le père Bourdois qui arrive et qui vous grondera encore s'il ne vous trouve pas là. Un autre mariage, rapportez-vous-en à moi. Je vous préviendrai quand le moment sera venu. Viendra-t-il bientôt? Vous êtes trop curieux, Hector, et vous manquez de confiance en moi. C'est mal. En ce moment, la voix du père Bourdois se faisait entendre en bas. Hector rétrograda rapidement et redescendit à l'atelier, s'efforçant de trouver des motifs de consolation dans le résultat à peu près négatif de sa démarche. Sans doute, Louise avait refusé de fixer le jour de leur mariage, mais les termes de son refus indiquaient assez qu'elle ne considérait pas ce mariage comme impossible. C'en était assez pour ramener un peu de repos dans l'âme d'Hector. « Il ne faut qu'attendre, se dit-il, et ben, j'attendrai. » Cependant, cet entretien n'avait pas eu sur Louise un aussi bon effet. Il lui avait remis devant les yeux certaines réalités qu'elle aurait voulu laisser dans l'ombre, et dont l'aspect, autrefois indifférent, la troublait aujourd'hui et l'effrayait. Mais que se passait-il donc dans ce jeune cœur? Touchait-il à une de ces périodes critiques qui décident de toute une existence? Bon, c'est ce qu'il était difficile d'affirmer dès ce moment. On pouvait cependant noter quelques pronostics menaçants. Louise avait moins d'assiduité au travail et regagnait pendant la nuit le temps perdu en rêverie dans la journée. Ses petits voyages au magasin étaient redevenus plus fréquents et duraient plus longtemps. Elle devenait curieuse de choses qu'elle avait jusqu'alors ignoré. Une main indiscrète qui se fut glissée sous son oreiller de jeune fille en eût tiré un volume dépareillé de romans qu'une demoiselle du magasin lui avait sans doute prêté. C'était un de ces affreux volumes de cabinet de lecture, maculés de mille tâches indescriptibles, fatigués, brisés par de longs voyages de la loge du portier à la mansarde de la femme de chambre. Le serpent, si serpent il y a, ne se cachait-il pas sous les fleurs? On pouvait le supposer. Une crise était imminente. Chapitre 3. Le cercle. Beaucoup de nos lecteurs ne savent pas sans doute ce que c'est qu'un cercle. C'est un café honteux, un café qui n'a pas le courage de son opinion. Le cercle est une concession faite aux mœurs, non pas meilleures, mais plus susceptibles, plus hargneuses, pour ainsi dire, de la province. C'est le résultat d'une transaction, d'une capitulation de conscience. Le mot « café » implique, pour certains bourgeois, l'idée de la monstrueuse débauche. Une fois qu'un homme a été flétri du nom de pilier de café, il est jugé, il ne s'en relèvera jamais. Ces excellents pères de famille ne soupçonnent pas que l'on puisse aller au café dans le but tout à fait innocent de prendre une simple tasse de la ligueur salutaire qui a donné son nom à ces sortes d'établissements. Il se représente l'homme qui va au café sous la forme d'un gaillard dans un état voisin de l'ivresse, criant et brandissant une queue de billard au milieu d'un nuage de fumée qui s'exhale de son énorme pipe culottée. L'épithète de culotteur de pipe s'accole volontiers dans la bouche de ces mêmes bourgeois à celle de pilier de café. Toutes deux ouvrent dans leur intelligence un horizon de perversité inouïe, auprès desquels les célèbres orgies des Romains du Bas-Empire n'étaient que de simples dînettes. Les jeunes gens, que leur fortune ou leur position obligent à une stricte observation du décorum, ceux qui ont leur position à faire, ceux qui ont, dans un lointain plus ou moins rapproché, la perspective d'une dot et d'un établissement, et aussi certains pères de famille qui considèrent le tête-à-tête après-dîner comme anti-hygiénique, ont dû chercher un terme moyen qui concilia leur propre satisfaction avec les scrupules de leurs concitoyens. Ils ont inventé le cercle. Que celui qui a eu le premier cette triomphante idée reçoive ici nos sincères félicitations. Il a rendu un grand service à l'humanité. En résumé, le cercle est un local où l'on vient après son déjeuner, après son dîner, toute la journée si l'on veut. On y boit, on y fume, on y joue. C'est absolument comme un café, c'est vrai, mais ce n'est pas un café, c'est un cercle. Bien plus, il arrive souvent que le cercle a pour local des appartements dépendants d'un café, qu'on y est servi par les garçons de ce café, qu'on y entre par la même porte que les consommateurs du café. Tout cela est vrai, mais ce n'est pas un café, c'est un cercle. La seule différence, c'est que tout le monde peut aller dans la salle du café et que la salle du cercle est réservée à un nombre limité de personnes, d'amis, qui, moyennant une modique cotisation annuelle, ont le privilège de boire, de fumer, de jouer aux cartes et au billard à un autre étage que l'ignobile vulgus. Il peut arriver seulement que les habitués d'un cercle, qui se connaissent tous et ont un égal intérêt à faire preuve de tolérance et de discrétion vis-à-vis les uns des autres, s'astreignent à moins de retenue et jouent un peu plus gros jeu qu'ils n'oseraient le faire dans un café, sous l'œil vigilant et investigateur de leurs contemporains. Cela dit, nous introduirons notre lecteur dans un de ces cercles, le cercle de la fashion, de la jeunesse dorée de Rouen. On l'appelait familièrement le club des moutards. Il occupait le second et le troisième étage d'une maison de la rue aux Ours, dont le premier et le rez-de-chaussée étaient à usage de café. L'ameublement était d'une grande simplicité. Des tables de marbre, des banquettes, près de la porte, un râtelier pour les pipes, La salle de billard était au troisième. Signalons encore un petit salon un peu plus confortable que le reste, avec des rideaux, des fauteuils et des tables de jeu. C'était là que se faisaient, après minuit, les fortes parties d'écarté. La jeunesse dorée qui hantait le cercle de la rue aux Ours se composait de fils d'industriels ou de commerçants, d'employés dans des maisons de banque ou dans les administrations publiques. Les uns riches, les autres feignants de l'être, tous plus ou moins élevés d'après le système d'éducation pratique que nous avons essayé de caractériser. L'élément littéraire et fantaisiste n'y avait guère à notre connaissance qu'un seul représentant. C'est en effet un élément rare en province, surtout dans nos villes du Nord, où l'oisiveté et la paresse sont choses à peu près inconnues, où la préoccupation d'acquérir prend le jeune homme à 20 ans et le conduit, sans lui laisser de trêve, jusqu'au bord du tombeau. Aussi, là, si les réunions de jeunes gens sont quelquefois bruyantes, elles sont peu gaies. Il y manque cette excentricité, cet humour, cette vivacité de répartie, ce cliquetis de mots et de paradoxes qu'on trouve dans certaines parties de la jeunesse parisienne et aussi dans quelques villes méridionales. Il était près de 8 heures du soir, le cercle de la rue aux Ours commençait à se garnir d'habitués. Bon, nous nous bornerons pour le moment à en présenter 2 au lecteur. Le premier se nommait Amédée Duplan. C'était le fils d'un négociant ruiné. Il avait pour toute ressource une place de 2400 francs chez un banquier. Malgré ce modique avoir, il ne faisait pas mauvaise figure. Il jouait beaucoup et heureusement. Il était de plus bien reçu dans beaucoup de maisons de la ville, notamment dans la famille de Maxime Perrier, dont il était l'ami d'enfance. C'était lui qui avait trouvé le pavillon de la rue des Vignes et y avait plusieurs fois accompagné son ami. Le second, Jules Renard, avait pris une position à part dans la jeunesse rouennaise. Il avait hérité de bonheur d'une assez jolie fortune et en jouissait sans chercher à l'augmenter. Ce fait monstrueux avait d'abord causé un profond étonnement parmi ses connaissances. On s'y était cependant habitué. On se contentait de dire en parlant de lui « Oh, c'est un original !» Jules était par-dessus tout un esprit indépendant. Le joug des affaires ne lui convenait pas plus que celui de certaines convenances sociales. Il avait arrangé sa vie de telle manière qui ne dépendait de personne. Un beau matin, il lui prenait envie d'aller faire un voyage. Il partait, sans rien dire à personne, et revenait au bout de 2 mois, répondant à ce qu'il questionnait « Oh, j'arrive de Constantinople !» Malgré cette conduite qui choquait tous les usages reçus, Jules était bien accueilli partout où il lui plaisait d'aller. D'abord parce qu'il était riche, ensuite parce qu'il était bien élevé et homme du monde accompli. On lui reprochait seulement beaucoup de réserve et pas mal de causticité. Il causait rarement, mais il lançait parfois dans la conversation des traits piquants qui dépassaient l'épiderme de ceux auxquels il s'adressait. On était au temps de la première vogue des filles de marbre, et on l'avait surnommé Déjeuner. Ajoutons qu'il avait étudié la médecine, qu'il était docteur, et que, bien qu'il pratiquât rarement et seulement pour rendre service à ses amis, on lui reconnaissait une certaine habileté. Le cercle, avons-nous dit, se remplissait et la conversation s'était engagée. On entendait des propos de ce genre qui se croisaient. « Combien as-tu payé ta nouvelle jument ?»« Aucun 100 francs. »« Oh, c'est cher. Elle est un peu lourde. »« Oui, mais elle a beaucoup de fond. » Ton canot est-il terminé? Oui, nous le mettrons à l'eau demain. À propos, messieurs, une grande nouvelle. Vois donc, Léon se marie. Contre qui? Oh, contre mademoiselle Dupréty. Combien de dot? Oh, on parle de 200 000 francs. Bon, c'est maigre. Oui, mais il y a des espérances. Tiens, le tableau de la nouvelle troupe d'opéra, dit un des habitués en ouvrant un journal. Est-ce bon? Bon, une troupe de carton. Crois-tu que la direction tiendra? Ça dépend. Il y aura des débuts orageux. Oh, tant mieux. Moi, je vais au théâtre que pour les débuts. Alors abonne-toi, car tu pourrais bien y aller toute l'année. Garçon, avez-vous la côte du Havre? Monsieur, elle est en main. Qu'a fait le 3% aujourd'hui? Oh, 70, 60. Oh, diable! À 8h30, Maxime Perrier fit sens l'entrée au cercle où il n'avait pas paru depuis un mois. Il fut accueilli par des exclamations de toute l'assistance. Après les exclamations vinrent les questions. « Oh, tu croyais mort? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu vas te marier? Ta future t'a donc défendu de venir au cercle? C'est pas bien de négliger ses amis. » Maxime justifia son absence par des raisons d'affaires. Renard, qui fumait tranquillement dans un coin, sortit sans silence. « Ah, n'en croyez pas un mot, dit-il. Je parie que Maxime est amoureux. »« C'est vrai? Mais cela doit être. Il y a de l'amour là-dessous. »« Je suis comme un juge d'instruction, je cherche la femme. » Maxime protesta de sa parfaite innocence. Le bruit s'apaisa peu à peu et l'on se remit à jouer. Quand l'attention fut portée autour des tables de jeu, Maxime prit à part son ami du plan. « J'aurais besoin de toi, lui dit-il. « Parle, tu sais le pavillon de la rue des Vignes ?»« Oui, eh bien, il peut se faire que, d'ici quelques jours, peut-être demain, je cesse d'y aller. » Mais j'ai des raisons pour qu'on croie que j'y vais toujours. Oh oui, je crois comprendre. Il faudra donc qu'à partir du jour où tu recevras une lettre de moi, tu ailles au pavillon faire acte de présence. Tu entreras par la porte de la ruelle dont je te donnerai la clé. Tu monteras dans le pavillon, où tu y resteras une heure ou deux. Tu mettras ma robe de chambre, enfin... Tu feras en sorte que l'on croit que je n'ai pas rompu avec mes habitudes. Et si tu sors à la nuit, tu pourras passer par la porte de la rue des Vignes. Ah, histoire de dépister les soupçons, précisément. Et pourrais-je amener des amis, tant que tu voudras. Compte sur moi, j'attendrai ton signal pour commencer. Non, ce n'est pas tout. Je vais probablement aller passer 2 ou 3 jours à Dieppe. Pendant ce temps-là, il faut que tu me trouves un petit logement. Encore, mais mon cher, tu vas faire hausser le prix des loyers. Oh, un petit logement proprement meublé, 2 ou 3 pièces dans un quartier reculé. C'est bien, je te chercherai cela. Et tu m'en donneras immédiatement avis à Dieppe. C'est convenu. Vas-tu faire une partie? Oui, jusqu'à 11h. Je suis sûr, dit Jules Renard, qui restait dans son coin, avait entendu quelques lambeaux de la conversation. Je suis sûr que voilà 2 gaillards qui ne méditent pas une bonne action. Oh, déjà, mon ami, mêlez-vous de vos affaires. Allez, allez, jeunes gens, faites des folies. Cela vous arrive pas si souvent. Avec cela que tu as des titres au prix Montion, toi, je te conseille de prêcher la vertu. » Ces mots faisaient allusion à une liaison également désapprouvée par la morale et par le code que l'on attribuait à Jules Renard. Cette liaison, sur le caractère de laquelle on n'était pas complètement édifié, était considérée comme le seul motif qui le ramenait toujours à Rouen. Eh, mes amis, répondit-il à Duplan, pendant que Maxime se mettait à une table de jeu, je ne prêche pas, j'avertis, je crie gare. Je ne suis pas un moraliste, je suis un cantonnier. Je monte mon petit drapeau, voilà tout. À 11 heures, Maxime se leva et quitta sournoisement le cercle sans dire adieu à personne. Il descendit la rue Grand-Pont, prit une voiture sur le quai et se fit conduire à son jardin de la rue des Vignes. La voiture s'arrêta à la porte de la ruelle et ne s'éloigna pas. Maxime traversa le jardin, monta à son pavillon et alluma 2 bougies qu'il éteignit au bout de 5 minutes. Il redescendit ensuite, ouvrit sans bruit la porte qui donnait sur la rue des Vignes et attendit. La nuit était calme et silencieuse. Les étoiles brillaient au ciel sans lune. Les rues étaient sombres et aucune lumière ne se montrait dans la maison d'en face. Le temps était doux. Une brise légère agitait doucement le sommet des arbres du jardin. Maxime se promenait lentement dans l'allée qui aboutissait à la porte, prêtant l'oreille au moindre bruit du dehors. C'était parfois le roulement sourd d'une voiture attardée qui passait sur le quai de l'autre côté de l'eau, ou bien l'aboiement éloigné d'un chien de garde réveillé par les pas d'un promeneur solitaire. Il regarda sa montre en éclairant le cadran au feu de son cigare. Il était 5 minutes. Bientôt, une horloge prit les devants et frappa 12 coups. Les autres suivirent et pendant 15 minutes, les carillons se succédèrent presque sans interruption. Maxime se rapprocha de la porte. « Sera-ce pour ce soir ? » pensa-t-il. Quelques minutes se passèrent encore. Il se recula de quelques pas et regarda par-dessus le mur le premier étage de la maison d'en face. Comme nous l'avons dit, aucune lumière ne s'y faisait voir. Il était probable que tous les habitants en étaient depuis longtemps profondément endormis. Maxime songeait à sa position. Que penseraient ses bons amis du cercle s'ils le savaient ainsi inquiet, tourmenté, passant depuis 1 semaine, 2 heures chaque nuit, en réflexion et en promenade comme un amoureux transi ou jaloux? Comme il prêtait le flanc aux railleries, aux épigrammes de ces jeunes gens qui montrent avec orgueil leur prétendue cuirasse d'indifférence et de scepticisme. Et pourtant, cela est vrai. Il y en a quelques-uns, il y en a beaucoup, qui passent leur vie sans aimer, qui traversent les 10 belles années de leur jeunesse sans se douter qu'il existe d'autres émotions que celles d'une spéculation hardie ou d'une orageuse partie d'écarté. Et ceux-là sont aimés, considérés, ils font de beaux mariages, et les pères de famille les offrent pour modèle à leurs fils. Maxime, un des produits les mieux réussis de l'éducation pratique, avait, jusqu'à ce jour, figuré avec honneur dans la phalange des invulnérables. Au moment où il rentrait, pour ainsi dire, dans les conditions normales de la vie, où des sensations nouvelles naissaient en lui, il se croyait déchu vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Ce n'était pas qu'il éprouvât une de ces passions violentes qui ravagent, qui bouleversent, qui renouvellent. Il n'aimait pas comme peuvent aimer les grandes âmes qui n'ont point passé pour l'étamine de l'éducation pratique. Mais la flamme de l'amour est si pure et si vive que, si faible qu'elle soit, elle suffit à éclairer et à réchauffer les cœurs où elle brûle. Il était 9:50. Maxime attendait toujours. À ce moment, la porte de la maison d'en face s'ouvrit doucement. Une femme, enveloppée d'un petit châle, en sortit, jeta un coup d'œil sur la rue, la traversa en courant, poussa la porte du jardin et se trouva dans les bras de Maxime. Le jeune homme la saisit et, l'entraînant, lui fit traverser le jardin et la plaça dans la voiture qui attendait à l'autre porte. Il y monta après elle. Le cocher, qui avait probablement reçu ses instructions à l'avance, partit, traversa le pont suspendu et gagna la partie supérieure de la ville.